carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Le festival De Lacoste fête ses 10 ans d'existence, initié par Pierre Cardin en 2000, au cœur du Luberon. Lacoste, l'ancien château du Marquis de Sade, fut racheté en ruine par le célèbre couturier. En parallèle de la restauration, Cardin eut très vite l'idée de fonder un festival attaché à l'illustre demeure. Pour ce lieu, où il passe dès qu'il le peut un moment, Pierre Cardin, en grand mécène, ne compte pas à la dépense. L'histoire de cette aventure entre le créateur et l'une des anciennes demeures du Marquis de Sade, avec nous aujourd'hui sur Canal Académie, Pierre Cardin. Pierre Cardin, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer d'abord là, sur ce lieu?
C'est un de mes amis, Marius Constant, qui avait donné un spectacle dans ce lieu, chez M. Boyer, qui en était le propriétaire, et il m'a dit « tu devrais voir ce lieu, c'est magique, toi qui aimes le théâtre et qui es toujours à la recherche de la créativité. Madame Bauer veut le vendre actuellement, donc je pense que tu devrais le voir, c'est très extraordinaire, tu devrais aller le voir, je suis venu le voir. » Donc ça s'est concrétisé comme ça, puisque M. Bauer voulait que ce soit l'Institut de préférence, et comme je suis membre de l'Institut, donc ça tombait bien.
Et c'était il y a à peu près 10 ans?
Il y a 10 ans aujourd'hui, oui.
Qu'est-ce qui vous a tant plu dans le lieu aussi? Qu'est-ce qui vous a séduit?
Eh bien, le premier jour, j'ai été très déçu car il faisait froid et il pleuvait. Et en même temps, c'était dans le brouillard. Donc, je n'ai pas été vraiment tellement désireux de l'acheter. Et Mme Bauer, qui en était la propriétaire, a insisté beaucoup. Et je suis revenu 8 jours après avec un soleil, avec une lumière, avec une transparence du temps. J'ai eu un coup de foudre et j'ai acheté ce château qui était un mât de pierre. Ce n'était pas un château, c'était vraiment une ruine qui a été démolie à la Révolution française.
Il ne reste pas grand-chose, mais il y a des carrières, il y a un site, il y a
un
lieu, il y a des murailles.
Oui, il y a 18 hectares tout de même, il y a 18 hectares.
Alors, sur ce lieu, vous avez pris la décision rapidement de créer un festival.
Voilà, j'ai demandé à une de mes amies, qui est Eva Ruggieri, qui est une femme surtout d'opéra, si elle voulait bien participer à m'aider dans ce domaine-là, et c'est ce que nous avons fait, cette expérience qui est un succès la première année.
Donc, en dehors de l'espace Cardin à Paris, vous avez aussi cette scène-là au château de Lacoste qui permet de montrer des spectacles à la fois originaux et puis aussi des spectacles lyriques avec...
On a commencé par l'opéra, mais on a fait de la comédie musicale, on a fait des chanteurs simplement, on a fait de la danse, on a fait des sujets sur ça, on a fait sur d'autres personnages. C'est un lieu qui ne s'est pas spécialisé uniquement sur l'opéra, pas du tout, bien au contraire. Il y a 10 spectacles par an. En 10 ans, j'ai monté 100 spectacles seuls, sans subvention, vous voyez l'importance.
Ce sont des spectacles que vous produisez
complètement. Produis moi-même, chez moi, et qui reçoit les gens chez moi. Donc 100 spectacles en 10 ans, je ne crois pas qu'il y ait l'équivalent.
L'équivalent. En plus, ces spectacles peuvent tourner aussi à l'étranger après.
Oui, on les fait tourner à l'étranger également, aux États-Unis, en Chine, en Japon, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Amérique, à Los Angeles. On fait tourner les spectacles par la suite, oui.
Vous êtes favorable au maintien comme ça, en permanence? Vous avez besoin d'être au contact de tous les arts, que ce soit le théâtre, la musique, pour votre propre création?
C'est-à-dire, moi-même, je voulais être acteur et danseur, donc ça change bien l'opinion des autres. Je n'ai pas pu le faire, puisque la guerre est arrivée très jeune, à 17 ans, et je n'ai pas pu m'évoluer dans ce milieu-là, que j'ai par la suite suivi à Paris, en venant à Paris. Donc, grâce à Cocteau, grâce à Visconti, grâce à Lozet, grâce à Jean Delannoy, Christian Jacques, Max Ophüls, enfin j'ai travaillé beaucoup pour théâtre et cinéma.
À votre tout début?
Au début, à 20 ans.
Quand vous êtes arrivé à Paris?
J'étais déjà dans le pied, mais j'ai pas pu être acteur puisque j'ai réussi brillamment dans la mode avec Christian Dior et que j'ai monté ma maison qui a merveilleusement réussi aussi, donc j'avais pas de raison de quitter ce métier. Mais néanmoins, le théâtre, le cinéma, la danse, tout ce qui est, disons, art
de la scène?
Art de la scène me tentait toujours, en nostalgie en réalité. C'est pour ça que j'ai acheté le théâtre des Ambassadeurs, qui est devenu l'espace Cardin.
Qui est un bel endroit aussi.
Un bel endroit, place de la Concorde à Paris, oui.
Vous avez toujours des lieux centraux, hein?
Oui, vous voyez, place, là, il y a 60 ans que j'habite ici, place devant, j'ai vu passer 9 présidents de la République. Je suis quand même place Beauvau, c'est un beau centre également. Là, la Concorde, c'est pas mal non plus. Le Palais Bulle dans le Midi, c'est pas mal non plus. À Venise, j'habite la maison de Casanova où je monte une comédie musicale maintenant, je le précise, qui va avoir première mondiale, Piazza San Marco à Venise, Venezia sur la ville de Casanova, comédie musicale. C'est le 12 juillet, très prochainement.
Alors, la création mondiale, elle a lieu Piazza San Marco.
Piazza San Marco, en hommage à Casanova. Et comme j'habite le palais de Casanova, donc la fête se fera chez Casanova lui-même.
Ah bon, et il est où ce palais?
Il est dans le quartier du marché, le marché à Rialto.
Près du marché du Rialto.
Près de Rialto, oui.
C'est un ballet que vous avez depuis longtemps?
Oui, il y a 35 ans que j'ai ce ballet. Là, moi, je suis italien et vénitien, oui, vous savez. Donc, oui. Mais j'avais, à un moment, je n'avais pas les moyens de me payer un ballet. Et je n'ai pas choisi le moindre, c'est-à-dire celui de Casanova, qu'on m'a également proposé. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi.
L'an dernier, vous avez aussi eu la grande chance de voir le spectacle que vous aviez produit,
Marco Polo, au Piazza San Marco,
qui était un spectacle magnifique,
formidable, oui.
Formidable avec
et comme je l'ai présenté pour l'ouverture des Olympiades à Pékin et que le gouvernement chinois m'a permis de faire l'ouverture dans le théâtre même qui a été construit, vous savez, par un académicien d'ailleurs.
Oui, Paul Andreu.
Paul Andreu, et j'ai pu présenter mon spectacle qui a été pour moi une image très extraordinaire, car étant italien et vénitien, Marco Polo étant italien...
C'était un très beau trait d'union.
Ça allait vraiment dans le sens même.
Ça a dû être une très grande émotion.
Très grande émotion, et en plus j'ai représenté après à Venezia, Piazza San Marco aussi.
C'était un très grand moment. Donc
avec
cette année...
Pietra Galla qui avait fait la chorégraphie, très extraordinaire, oui.
Et cette année, c'est donc une comédie musicale sur la vie de
sur
de Casanova.
La vie amoureuse privée de Casanova, car on a toujours fait la vie publique un peu, mais il n'en a jamais vu la sensibilité de Casanova avec sa vraie vie sentimentale qu'on connaît peu. Et c'est un sujet qui est plutôt centré sur sa vie privée,
d'accord,
vraiment privée, émotive et sentimentale.
Et là, on est dans le registre de la comédie musicale, c'est un registre un peu plus léger.
C'est pas de l'opéra, non. Mais en fin voilà. de compte, c'est un opéra de comédie musicale, parce qu'il y a quand même des danseurs.
Des costumes?
Évidemment, c'est moi qui les ai faits là-dessus. Mais il y a surtout une belle troupe de danse également, Estelle, qui est un admirable chorégraphe. Et nous avons fait le spectacle, se répète actuellement à Lacoste, pour le présenter donc le 12 juillet à Piazza San Marco à Venise.
Ensuite, on aura le plaisir de le revoir à Lacoste.
Et puis à Paris par la suite.
Et cet
mais après,
hiver...
il est déjà programmé en Chine, au Japon, en Amérique. Il est déjà très, très avancé parce que les voix sont admirables et toutes italiennes. Parce que...
Le bel canto.
Bel canto, certo.
Pierre Cardin, dans la partie, on va dire, de l'art lyrique pour le Festival Lacoste en 2010, vous avez aussi invité des artistes qui vont chanter de leur voix magnifique.
Oui, nous avons, en réalité, c'est très divisé entre danse, chant, opéra, comédie musicale, texte, enfin c'est très programmé. Je ne fais pas seulement que de l'opéra.
Oui, exactement.
Là, on aura un Offenbach, d'accord, mais les années précédentes, on a eu des grandes lyriques, vous connaissez René Fleming, enfin énormément, des grands, grands chanteurs, Alagna, enfin tous les grands chanteurs.
Mais vous aurez aussi Ariel Dombal.
Dombal également, qui est une chanteuse fantaisiste également, oui.
Et puis, il y aura aussi Schubert in Love, qu'est-ce que c'est?
C'est dansant, oui, c'est de la danse.
C'est de la danse, à la fois du théâtre... J'en ai oublié de préciser que c'est l'orchestre de l'Opéra de Marseille qui va jouer cette comédie, l'opéra comique d'Offenbach, hein, La Belle Hélène. Ça sera à Lacoste entre juillet et août. Il y a en fait un spectacle tous les trois jours.
Hein,
c'est un rythme comme ça.
On fait les répétitions parce que dans un même lieu, on ne peut pas jouer tous les jours, étant donné que ce n'est pas le même spectacle. Donc il faut démolir, reconstruire les scènes, répéter. Donc ça prend minimum 3 jours.
Donc c'est en fait du 14 juillet au 6 août qu'on peut voir ces différents spectacles, voilà, tous les 4 jours. C'est aussi un lieu d'exposition, ça va le devenir, un lieu d'exposition d'art.
Oui.
Vous avez toujours souhaité être sculpteur et vous rendez un hommage particulier à la sculpture très prochainement sur ce
c'est un
au château
lieu
où de Lacoste.
Il y aura énormément d'expositions de sculpteurs en plein air et de peinture également. Pour le moment, c'est la sculpture que je présente. D'ailleurs, l'Institut de l'Académie des Beaux-Arts sera présenté pendant 2 mois dans l'intérieur du château même du Marquis de Sade. Nous avons eu les participants qui ont accepté, qui vont, à partir du 1er juillet, exposer leurs œuvres. Donc, ce sont les premiers prix tout de même de l'Institut. C'est quand même des personnages.
Toute la section de sculpture va exposer.
Voilà, à l'intérieur de l'Institut, parce qu'il faut les protéger, c'est des œuvres très précieuses.
Bien sûr.
Et puis, on aura d'autres sculpteurs à l'extérieur, mais ça, c'est secondaire.
C'est gratuit?
Non, parce que tout ce qui est gratuit n'a pas d'intérêt.
Alors?
Non, ce sont les prix du musée, parce qu'il y a quand même du personnel à payer. Il y a de l'entretien, il y a de la protection, il y a de l'assurance. Enfin, il y a des frais d'une gestion, en réalité, que vous savez très bien. Non, mais ça, c'est pas gagnant, mais en tout cas, ça permet quand même le minimum du billet compenser certaines dépenses.
Un petit billet d'entrée.
Ne serait-ce que les transports, vous savez, c'est très lourd.
Les sculptures, c'est très
compliqué à transporter. Les tableaux sous le bras, d'accord, mais les sculptures, ça coûte très cher en plus de les faire transporter.
Comme
c'est moi qui prends tout en charge, donc évidemment...
C'est vrai que c'est grâce à votre mécénat.
Oui,
c'est
vraiment une relation de respect par rapport à l'Institut. Car je suis académicien, comme vous le savez.
Premier académicien qui représente
la mode et les
arts de la haute couture.
Hein. C'est ça.
Pour terminer, sur Lacoste, sur ce lieu, où il y a ce festival, ces expositions d'art contemporain. Ces expositions, elles vont être détachées du festival. Vous allez pouvoir faire une programmation.
Temps. C'est lié complètement. Non, c'est-à-dire que les gens qui viendront, ça fait un public. Hein. Il faut tout de même qu'il y ait du public. Comme c'est un peu sur la hauteur, le château est très monté, c'est très haut. Donc ça permettra à certaines personnes qui viennent au festival, le soir c'est ouvert, de pouvoir, avant le spectacle, d'aller passer une demi-heure, voir les œuvres des grands sculpteurs français ou étrangers d'ailleurs.
Elles seront à l'extérieur ?
Elles seront à l'extérieur, forcément, puisqu'elles sont monumentales.
Hein. Ah, monumentales,
c'est
non, j'ignorais.
Ce n'est pas des sculptures, non, c'est des grandes sculptures, parce que c'est l'open air. Parce que très souvent, les sculpteurs qui font des grandes sculptures ne savent pas où les exposer. Donc en plein air, et là c'est protégé quand même, c'est à l'intérieur de la cour du château.
Merci Pierre Cardin de nous avoir dévoilé ces sculptures. Donc on va voir des sculptures de Cardot, de Gérard Lanvin peut-être, de Claude Abeille, de Brigitte Terzieff.
Voilà, non, vous avez une belle image.
Vous avez déjà...
Quatre grands noms, académiciens, et puis on aura d'autres par la suite, j'espère.
Voilà, et des sculpteurs étrangers ?
Oui, mais par la suite, on fera la peinture également, puisque les lieux sont très grands. J'ai beaucoup, pas de hangar, mais de lieux très, très propices, qui sera un ensemble. Ça va devenir un centre culturel, en réalité, privé, bien sûr, et que je me réjouis de le faire, puisque c'est ma propre liberté, ma propre pensée.
Donc ça, c'est la prochaine étape.
C'est la prochaine étape, mais elle est proche, la prochaine étape.
Bon, donc tout ça se concrétise à la vitesse grand V.
C'est constructif, je suis un constructeur.
Un constructeur, un entrepreneur jusqu'au bout.
Et un passionné, surtout.
Et un passionné des arts. Qui vous nourrissent et qui nourrissent votre création. Pierre Cardin, merci de nous avoir reçus.
Merci pour votre présence, merci.
Restez à l'écoute et retrouvons Lydia Arambourg dans quelques instants après cette pause musicale pour présenter l'exposition des sculpteurs de l'Académie des Beaux-Arts au château de Lacoste. Rappelons que le festival accueille cette année, 2010, la comédie musicale Casanova, un récital d'Ariel Dombasle, une représentation théâtrale de Gonzague Saint-Brice, Un soir dans le salon de l'histoire, l'opéra comique d'Offenbach La Belle Hélène, un ballet Anastidose, un spectacle musical de Gérard Chambre, Le Petit Groom de chez Maxime, un autre ballet d'Europe, Jean-Charles Gilles, Schubert in Love, et enfin un récital d'Emma Ray. Lydia Arambourg, bonjour.
Bonjour.
Lydia Arambourg, vous êtes historienne, critique d'art et correspondante de l'Institut à l'Académie des Beaux-Arts. Et Pierre Cardin a annoncé dans l'interview la tenue d'une exposition dont vous êtes le commissaire, une exposition de sculptures en plein air au château de Lacoste. Et il s'agit d'œuvres prêtées par ses confrères de l'Académie. L'exposition est-elle placée, Lydia Arambourg, sous une thématique particulière ?
Il n'y a pas de thématique. Le souhait de M. Cardin était d'inviter ses confrères de la section sculpture, qui expose donc au château de Lacoste, dans l'enceinte du château de Lacoste, qui est généralement fermée au public. Donc c'est vraiment une grande première pour le public qui va découvrir non seulement cette superbe architecture qui a été restaurée, mais dont une partie des ruines a été conservée dans l'état, consolidé et avec des terrasses, donc, puisque le château domine le village de Lacoste, donc est au-dessus, offre un panorama sur la vallée de Bonnieu tout à fait exceptionnel. Et ce château est en quelque sorte comme étagé. Il y a des terrasses ouvertes donc sur l'espace. Et c'est là où justement la sculpture prend toute sa dimension et toute sa vérité, puisque là, il y a un dialogue qui s'installe avec l'espace et aussi avec l'architecture.
Combien d'œuvres à peu près sont exposées ?
Eh bien, écoutez, il y a 12 sculpteurs, donc 7 membres académiciens. Nous avons souhaité aussi que soient présents les correspondants. Ils sont 3. Et puis, il y a un membre associé étranger. Donc, cela faisait 11. Mais il y a un 12e invité. C'est Albert Ferraud. Nous en reparlerons peut-être. C'est le souhait de M. Cardin de rendre un hommage à son confrère Ferraud, décédé récemment. Enfin, donc,
qui est représenté
voilà. Nous avons 12 sculpteurs. Présentant chacun 3 œuvres.
Donc ça, c'est le principe. Donc, un nom deux ou trois œuvres. Il résulte une grande diversité des œuvres, j'imagine, du coup. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'éventail des pièces exposées? Parce que si on regarde le catalogue qui accompagne l'exposition, on a un bronze Mon Balzac de Claude Abeille, un bronze à la cire perdue de Gualtiero Busato, j'en énumère quelques-uns, le taureau de Cardo, une résine polychromée de Chataouet, une pierre de Soigny de Gênes d'Audaigne.
Oui.
Pas légère, j'imagine.
Ça va être la sculpture la plus lourde la plus imposante en poids, parce qu'elle fait presque... Il y a deux sculptures, il y en a une qui fait 600 kilos et l'autre une tonne. Et les deux sculptures viennent de son atelier, de chez lui à Bondu, près de Lille.
Voilà, une grande sculpture en inox d'Albert Ferrault, pour continuer un petit peu les présentations. Un bronze de Gérard Lanvin, une sculpture en acier inoxydable de Carolini. Et puis, il y aura aussi la Grande Ève, l'Ève 4 de Pierre-Édouard, qui sera exposée au château de Lacoste. Et puis, j'oubliais, une sculpture de Brigitte Terzieff, également, qui sera présentée. Et puis, une d'Antoine Poncet. Alors, Lydia Arambourg, dans cet éventail d'ajustes...
Il y a aussi Robert Rigaud, qu'il ne faut pas oublier,
oui,
qui est correspondant et qui a une très belle œuvre qui a quelques années, mais qui est d'une grande qualité aussi et qui est en métal également.
Dans cet éventail, là, énuméré comme ça à la... À tout va, chaque sculpture va trouver sa place dans les étages, dans les terrasses.
Alors,
du,
il y a les
château.
Sculptures qui sont à l'extérieur, puisque c'est quand même le propos de cette exposition. Hein. C'est encore une fois cette confrontation entre un lieu très emblématique, un patrimoine donc très riche, qui est ce château de Lacoste, et puis un paysage exceptionnel. Mais il y a aussi des sculptures qui sont plus fragiles et plus petites, qui prendront place dans une galerie du château, qui servira de salle d'exposition pendant cette période, donc, puisque l'exposition se tient du 14 juillet au 5 septembre.
Les pièces sont déjà installées là ?
Non, justement, je pars à Lacoste la semaine prochaine et je vais être aidée, secondée, parce que nous faisons vraiment une équipe très soudée et très complice pour cette manifestation avec quelques sculpteurs justement qui seront là également et on travaille vraiment en partenariat intense, c'est-à-dire que c'est plus qu'un partenariat, c'est une vraie complicité, on se connaît et donc il y a ces échanges, c'est l'écoute aussi qu'on a les uns pour les autres. Et ça, c'est important dans une exposition comme celle-ci parce que ce n'est pas mon choix uniquement, hein, c'est vraiment un partage. Je suis à l'écoute de ces sculpteurs que je connais tous, sur lesquels j'ai pratiquement écrit pour tous, j'ai fait des textes, mais il y a vraiment cet échange. Il faut que ce soit vraiment une fête, encore une fois, de la sculpture dans ce lieu magique.
Comment est-ce que le public rencontrera ces œuvres ?
Alors, le château, je vous disais, normalement est fermé au public, puisque c'est une propriété privée. Il est ouvert au moment du festival qu'organise chaque année M. Cardin à Lacoste. Et donc, le 14 juillet, le jour du vernissage, ce sera également la première de son spectacle Casanova. Donc, le vernissage va être suivi par la première représentation. Et ensuite, le château sera ouvert à des heures d'ouverture de musée. Donc, le matin, l'après-midi, les horaires seront indiqués. Et le public aura accès donc au domaine.
Est-ce que vous savez déjà, Lydia Arambourg, quelle est la pièce qui ouvre le parcours ? S'il y a un parcours ?
Il y aura un parcours, mais je vais vous dire, il va s'imposer de lui-même pour des questions pratiques et de logistique. C'est que, compte tenu de l'accès du château par une sorte de petit pont-levis, il y a des douves, donc il y a un petit pont et il y a une ouverture avec une porte qui a une certaine largeur. Et donc, compte tenu du poids de certaines de ces sculptures, les plus lourdes ne vont pas aller trop loin dans le château, elles vont rester sur le premier parterre parce qu'en fait, il y a une première cour, une deuxième cour et ensuite, il y a quelques marches qui permettent de descendre à une autre terrasse et un escalier qui permet au contraire de monter à une autre terrasse. Donc, les sculptures, en fait, vont se disposer, je dirais, à partir du moment où on va choisir une sculpture, une deuxième sculpture, je crois qu'elles vont se positionner d'elles-mêmes. Parce que pour en avoir fait déjà l'expérience dans d'autres manifestations et notamment ailleurs, les sculptures, les œuvres dialoguent assez vite entre elles et une attire l'autre. Et ça se positionne assez bien. Mais là, c'est vrai que les sculptures les plus lourdes vont être au début parce que ça sera très compliqué après de les acheminer plus loin.
Alors le public pourra avoir des œuvres toutes récentes, on va dire, mais également des œuvres phares ou classiques de certains des confrères de M. Pierre Cardin, puisqu'il y aura le Taureau de Cardo, qui est une œuvre quand même de 1961,
oui,
et qui est une œuvre emblématique de son travail.
Absolument, c'est une œuvre que Jean Cardo avait réalisée, c'est une commande d'ailleurs, c'était une sculpture qui est destinée, qui doit y être toujours, je pense, pour un lycée de Saint-Étienne. sa ville natale. Et donc, Jean Cardot a fait après faire un autre tirage, une autre fonte, qui est la fonte qui est en permanence exposée à Coubertin. Donc, c'est cette fonte-ci qui vient à Lacoste.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure Albert Ferrault, qui a disparu il n'y a pas très longtemps,
oui,
et dont une grande œuvre, là, je ne sais pas comment la décrire, va être présenté à
c'est de l'inox. Oui, c'est de l'inox, de l'acier inoxydable. Donc, c'est le matériau privilégié d'Albert Ferrault, bien sûr. C'en est un des grands maîtres. Il expérimente ce métal à la fin des années 50. Donc, il y aura deux grandes sculptures qui sont très, très caractéristiques du langage de Ferrault, qui est un langage à la fois extrêmement baroque, ludique, mais qui garde aussi cette présence d'une sculpture qui s'inscrit tout à fait dans la continuité de notre sculpture française, tout simplement parce qu'il y a une recherche d'harmonie, un équilibre, qui sont quand même des qualités de l'art français. Donc, c'est de la tôle, effectivement, qui est pliée, qui est découpée d'abord, pliée, soudée, tordue, avec des presses qu'Albert Ferrault utilisait dans son atelier.
Peut-être pour évoquer un travail complètement différent, peut-être pouvez-vous nous présenter les sculptures de Brigitte Terzieff qui seront exposées au château de Lacoste.
Alors, celles de Brigitte, je pense qu'elles vont s'inscrire dans ce château avec une force et une présence, parce que les sculptures de Brigitte Terzieff sont très emblématiques de ce monde à la fois guerrier, d'un monde... Les mots trahissent parfois et vont trop loin. Ce sont des grands personnages qui sont comme des messagers, moi je les appelle un peu des condottières, et donc... ce sont effectivement des figures très emblématiques, très mystérieuses. C'est à la fois, elles sont dépositrices de tous nos rêves, de nos fantasmes, d'une mémoire qui remonte à la nuit des temps. Donc, elles sont très habitées, très chargées, aussi parce qu'il y a la présence de ces boulons, de ces pièces de métal qui sont incluses donc, dans cette terre cuite, dans ce grès. Donc, il y a effectivement cette élévation, cette verticalité, c'est-à-dire qu'il y a ces personnages qui sont debout, qui se dressent et qui sont dans une aspiration ascensionnelle, qui tendent effectivement à aller au-delà, à s'arracher finalement à la terre, bien qu'elle soit très, très enracinée dans la terre. Donc là, je crois qu'il y a un parallèle magnifique entre le château, justement, qui a ses origines aussi dans ce monde médiéval, ce monde du mystère, ce monde métaphysique, de l'esprit. Voilà. Donc, elles vont se dresser et je crois que ça va être des moments très forts, là aussi.
Alors, écoutez, Lydia Rambaud, on va rester sur cette belle image et on va inviter les internautes à venir voir les sculptures au château de Lacoste du 14 juillet au 5 septembre 2010.
Merci.
Merci à vous.